Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, était déjà célébrée chez les Juifs. Elle leur rappelait que Dieu avait donné à Moïse, sur le mont Sinaï, les tables de la loi contenant les 10 commandements. C'était 50 jours après leur sortie d'Égypte. C'est pourquoi cette fête est appelée la Pentecôte, ce qui vient d'un mot grec voulant dire 50, puisqu'il s'est écoulé 50 jours entre la sortie d'Égypte et la remise des tables de la loi à Moïse. Et comme tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration de ce qui devait se réaliser avec notre Seigneur Jésus-Christ, cette Pentecôte du Sinaï était à l'avance l'image de la Pentecôte future, de celle que nous fêtons aujourd'hui, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette loi de Dieu, nécessaire à observer pour être sauvé, et qui avait été remise à Moïse sur des tables de pierre au jour de la Pentecôte, la voilà qui est écrite par Dieu dans le cœur des apôtres et qui a été inscrite dans nos cœurs au jour de notre baptême et surtout de notre confirmation. Et cette loi, c'est le Saint-Esprit qui vient dans les âmes pour les conduire au ciel de l'intérieur en éclairant leur intelligence et en fortifiant leur volonté pour leur faire pratiquer les commandements et leur permettre d'obéir à la volonté de Dieu. « Il est de votre intérêt que je m'en aille », avait dit notre Seigneur à ses apôtres, « car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Si au contraire je m'en vais, je vous l'enverrai. » Saint Jean appelle l'Esprit Saint du nom de Paraclet, qui veut dire « celui que l'on appelle à notre secours ». Bien sûr, il n'est pas seul à venir. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, dit notre Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. C'est donc toute la Trinité qui vient en nous. Mais l'on insiste surtout sur le Saint-Esprit, parce que dans la Trinité, le Saint-Esprit est l'amour mutuel dont s'aiment entre eux le Père et le Fils. L'Église parle surtout du Saint-Esprit pour que nous ayons toujours en tête que le plan de Dieu sur les hommes est un plan d'amour. Le Saint-Esprit était bien sûr présent sur cette terre bien avant la Pentecôte. Il planait au-dessus des eaux au moment de la création, nous dit le livre de la Genèse. Et on le voit bien agir dans tout l'Ancien Testament, spécialement dans les patriarches, les prophètes et tous ceux qui ont préparé le peuple juif à la venue du Messie. Et il était présent dans les apôtres avant la Pentecôte. Mais à partir du moment où notre Seigneur, par sa passion, avait détruit le péché qui est le grand obstacle à l'action du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit put venir et agir sur cette terre en plénitude. Là où le péché a abondé, dit saint Paul, la grâce a surabondé. Dans son encyclique sur le corps mystique, le pape Pie XII remarque que notre Seigneur aurait pu communiquer cette surabondance de grâce immédiatement à chaque personne, ce que pensent les protestants. Mais il n'a voulu le faire que par l'intermédiaire d'une église, d'une société visible, hiérarchique, fondée sur saint Pierre, les apôtres et leurs successeurs. Église qui est en même temps une réalité spirituelle. Elle est le corps mystique du Christ, dont il est la tête, et auquel on est agrégé par le baptême, qui permet de vivre de la vie du Christ, de participer à sa vie divine par les sacrements. Cette Église, c'est sur la croix qu'elle est née, le Vendredi Saint, lorsque le centurion a percé de sa lance le côté de Jésus et qu'il en est sorti du sang et de l'eau, symbole des sacrements de baptême et d'Eucharistie. Mais c'est au jour de la Pentecôte qu'elle est apparue au grand jour. À la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est emparé non seulement de Saint-Pierre et des apôtres, mais aussi des 120 disciples qui étaient avec eux au Cénacle depuis l'Ascension, priant avec la Vierge Marie. Et quel a été l'effet immédiat de cette Pentecôte? Eh bien, ils se sont mis à parler à la foule qui venait d'accourir. Et ceperunt loqui. Ils ont raconté les manialia Dei, les grandes œuvres de Dieu, chacun les entendant parler dans sa propre langue, comme nous venons de le dire dans l'Épître. Alors Saint-Pierre, le premier pape, a pris la parole et il a prêché Jésus-Christ. Il leur a dit « Vous avez crucifié le Sauveur du monde, mais il est ressuscité et nous sommes témoins de sa résurrection. Faites pénitence et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En ce jour, 3000 personnes furent baptisées et le nombre des fidèles augmenta chaque jour. Tous persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la prière et dans la communion de la fraction du pain, dit le texte sacré, c'est-à-dire dans la communion eucharistique. L'Église était née et elle continuera jusqu'à la fin du monde. Remarquons bien les étapes de la naissance de l'Église. Prenant possession de Saint-Pierre et des apôtres, le Saint-Esprit a d'abord rempli leur intelligence de la vérité divine. Notre Seigneur le leur avait prédit à l'avance, spécialement dans le discours après la scène, le jeudi saint au soir. Quand cet Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Non pas pour qu'ils la gardent pour eux-mêmes, mais pour qu'ils la prêchent jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce sont les dernières paroles de notre Seigneur, son testament au jour de son ascension. Allez enseigner toutes les nations. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. La première fonction de l'Église, c'est l'enseignement. Parce que la première chose à faire pour être sauvé, c'est de croire. La première soumission à faire envers Dieu, c'est la soumission de notre intelligence. Croire toutes les vérités qui sont contenues dans la Sainte Écriture et dans la tradition, et que l'Église nous propose comme révélées par Dieu. Et à cet effet, le Saint-Esprit a assisté l'Église au cours des siècles pour qu'elle garde et explique fidèlement le dépôt de la foi qu'elle a reçu des apôtres. Dans la confusion que le Concile Vatican II a créée dans toute l'Église, le Saint-Esprit nous a donné un critère infaillible pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Il a inspiré les pères du Concile Vatican Ier pour leur faire déclarer infailliblement que le Saint-Esprit, je cite, « Le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour leur permettre de proclamer, d'après ces révélations du Saint-Esprit, une doctrine nouvelle, mais pour, avec son assistance, garder saintement le dépôt de la foi, c'est-à-dire la révélation transmise par les apôtres, et l'exposer fidèlement. Fin de citation. Il y a aussi le critère de saint Vincent de Lérins, un moine du 5e siècle. La vérité catholique, c'est ce qui a été cru partout, toujours et pour tous. C'est le triple tamis par lequel nous pouvons passer tout ce qui nous vient aujourd'hui de la Rome conciliaire. L'œcuménisme, la liberté religieuse, l'Église synodale, etc., n'ont pas été crus partout, toujours et pour tous. Donc nous n'acceptons pas, nous ne pouvons pas accepter. Mettons-nous alors à l'école de ce que le Saint-Esprit nous enseigne par l'Église éternelle, que nous trouvons par exemple dans le catéchisme du Concile de Trente ou dans le catéchisme de Saint-Pie X, et faisons à chaque page un acte de foi. C'est le chemin du salut. Mais le Saint-Esprit vient aussi dans l'âme des baptisés, spécialement lorsqu'il s'approche des sacrements de l'Église. Il vient encore par l'Église. Les sacrements nous donnent la grâce sanctifiante, qui est une participation de la nature divine, qui élève notre nature au-dessus de la nature humaine et qui nous rend dignes de recevoir dans notre âme le Saint-Esprit, la Trinité tout entière. Parce que Dieu veut faire de notre âme sa maison. Le Saint-Esprit n'est pas seulement esprit de vérité, il est aussi esprit d'amour. Notre Seigneur l'avait annoncé à ses apôtres. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Et c'est cela la charité, une vie d'amitié avec notre Dieu, qui est le début de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous a créés. Et le sacrement qui produit en nous une augmentation considérable de présence du Saint-Esprit, de grâce, de vie divine, c'est l'Eucharistie. Parce que la communion nous donne tout Jésus, Jésus homme et Jésus Dieu. Jésus Dieu qui est le Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, unie au Père et au Saint-Esprit. La communion nous donne toute la Trinité. Quittant l'Église après la messe, nous repartons avec notre Dieu. Alors, ensuite, nous pouvons à tout instant nous appuyer sur lui. Parce que dans notre âme, il n'est pas comme une eau dormante, c'est un Dieu en pleine activité qui est là. Il agit en nous, vous le savez, par ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, qui sont comme les voiles d'un bateau sur lesquels le vent peut souffler pour conduire le bateau au port, c'est-à-dire au ciel, à travers toutes les difficultés de la vie. Avons-nous du mal à prier ? Par le don de piété, le Saint-Esprit nous aide à nous recueillir et à élever notre esprit vers le bon Dieu. Nous ne savons pas quelle décision prendre, nous sommes dans une situation très embrouillée, apparemment inextricable. Par le don de conseil, le Saint-Esprit éclaire notre intelligence et nous permet de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions. Nous manquons de courage pour accomplir nos devoirs quotidiens. Par le don de force, le Saint-Esprit fortifie notre volonté et nous redonne courage. Et le même don nous aide aussi à repousser les tentations, etc. Quelles que soient les circonstances de la vie, même au milieu des pires tribulations, nous avons en nous un conseiller et un guide pour nous conduire infailliblement. Mais pour cela, il faut penser à cette présence du Saint-Esprit en nous. Il faut que notre vie chrétienne ne consiste pas seulement en quelques prières le matin et le soir et la messe du dimanche. Il faut que le bon Dieu occupe toute notre vie. Et bien sûr que nous travaillons à rester en état de grâce pour qu'il reste en nous. Alors que la Vierge Marie, qui toute sa vie s'est laissée guider et porter par le Saint-Esprit, qu'elle soit notre modèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.